podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
House of Saddam est une mini-série britannique en 4 épisodes de 60 minutes retraçant la période où Saddam Hussein était au pouvoir en Irak. Elle se déroule de sa prise de pouvoir jusqu'à sa mort en 2006. Elle est produite par BBC Two en partenariat avec la chaîne américaine HBO et diffusée en Grande-Bretagne durant l'été 2008. Bien que les audiences ne furent guère impressionnantes, l'accueil critique fut assez chaleureux pour cette série de prestige que nous présente aujourd'hui Tillman Villette.
Bonjour.
Et pour nous accompagner dans la discussion aujourd'hui, Nathanaël Picasse.
Bonjour.
Je crois que la manière la plus simple pour aborder une série comme La Maison de Saddam, c'est de suivre finalement son mode de réalisation, puisque sur 4 épisodes, chaque épisode correspond à une période, je dirais, importante, une tranche de vie importante de l'ex-dictateur irakien. Le premier épisode correspond à l'accession au pouvoir du futur président irakien en 1979 et fait donc l'impasse sur les jeunes années donc de Saddam Hussein. Il plante également le décor, la situation politique de l'époque et la situation familiale de la famille Hussein. Il arrive au pouvoir finalement par des manœuvres un petit peu douteuses puisque c'est une sorte de putsch qu'il organise avec le soutien qu'il a des autres personnes du gouvernement et de l'armée aussi qu'il réussit à se mettre dans la poche. Et donc il réussit finalement à forcer le président de l'époque qui était Al-Bakr à signer sa démission en faveur du vice-président, donc lui-même, Saddam Hussein, qui se nomme donc président quand même de l'Irak à vie. Tout en faisant une bonne purge aussi dans le parti puisque tout opposant à son régime était directement exécuté. Et il réussit en plus à le faire d'une manière quand même assez horrible parce qu'il n'exécute pas lui-même les personnes, il ne fait pas exécuter les personnes, il demande aux personnes qui le soutiennent, donc vraiment aux autres parlementaires qui sont dans son parti et qui sont avec lui, d'exécuter les gens. Il se lie un petit peu de cette manière par une sorte de pacte du sang avec ses alliés.
Un vrai dictateur en fait finalement, là je crois qu'on est en plein dedans.
Là je pense qu'on a trouvé l'archétype, hein, ça c'est sûr. Chaque opposant est donc liquidé par les partisans. Pour remplacer finalement les gens qui manquent dans son gouvernement, Saddam Hussein, il va tout simplement piocher dans sa famille, dans son entourage, pour placer finalement donc des gens, des frères, des cousins, des amis, des beaux-frères, une garde rapprochée qui est totalement dévouée à sa cause et sur qui il sait compter. Parce que la grande particularité de Saddam Hussein, et ça c'est extrêmement bien précisé dans la série, c'est qu'il met un point d'honneur à la loyauté envers sa personne. Donc quelqu'un qui viendrait à le trahir, ça serait pour lui, je pense, le pire des crimes possibles. Déjà, il le prendrait contre lui, mais il le prend également contre l'Irak qu'il met sur un piédestal monumental. Il est très à cheval finalement sur tout ce qui peut entraîner des trahisons pour l'éjecter du pouvoir. Il ira même quand même jusqu'à à faire un acte qui est assez hallucinant, rien que pour montrer finalement au peuple irakien sa détermination et pour se le mettre dans la poche aussi. Il ira jusqu'à assassiner son meilleur ami qui n'avait rien fait dans l'histoire. Mais juste pour montrer qu'il est assez fort pour pouvoir protéger l'Irak, il ira dire que son meilleur ami était un traître et que, en réaction, il l'a assassiné parce que, voilà, c'était un traître et qu'il était contre l'Irak. Le peuple pense effectivement que c'était un traître, or, il n'avait absolument rien à voir avec des histoires de trahison, mais maintenant, le peuple considère Saddam Hussein comme quelqu'un d'extraordinaire et totalement dévoué à son pays. Il y a eu des personnes autour de Saddam Hussein qui ont raconté effectivement ce qui s'était passé. Il y a une petite incohérence dans le récit, c'est que effectivement Saddam Hussein a fait assassiner son meilleur ami, mais ne l'a pas assassiné lui-même. Dans la mini-série, on montre effectivement le dictateur tirant une balle dans la tête de son meilleur ami. Dans la réalité, ce n'est pas lui qui l'a fait lui-même. Je pense que dans la série, ils ont voulu montrer ça pour que ça soit encore plus fort. Les personnes de sa famille, sa première épouse notamment, a publié beaucoup de choses dans les médias et a parlé. Son meilleur ami, à la base, c'était aussi donc un couple d'amis du couple Hussein. Et donc la femme, la veuve, est restée également très proche en fait de la première épouse de Saddam Hussein. Cette veuve d'ailleurs, par peur ou par justement dévotion envers peut-être son président, ira même dans une scène assez terrible jusqu'à pardonner lors de l'enterrement de son mari au dictateur d'avoir assassiné son mari au nom du peuple irakien. Donc ça, c'est une scène qui est quand même assez culottée, puisque Saddam Hussein se rend à l'enterrement, n'éprouve aucun remords, ne s'excuse absolument pas, et donne juste sa bénédiction à la femme pour lui dire, voilà, tu as reconnu que ton mari était un traître, j'ai bien fait de le tuer, c'est pour le bien du peuple, et elle est d'accord. En fait. Donc on voit un petit peu l'état d'esprit du peuple irakien après cet événement-là, puisque même la veuve pardonne.
C'est un gros lavage de cerveau aussi, hein, qu'il a réussi à faire, ne serait-ce qu'au niveau de son entourage, mais au niveau du peuple, en fait.
Il y a vraiment eu une sorte de discours nationaliste exacerbé qui a entraîné les foules du fait de manipulation également, ça il faut le savoir. Et puis une fois qu'il s'est installé au poste de président, qu'il s'est fait respecter dans la crainte finalement aussi, puisque si on n'était pas d'accord, on se faisait exécuter de toute façon, Saddam Hussein se sent fort et c'est à ce moment-là qu'arrive le premier conflit important entre l'Iran et l'Irak. C'est à ce moment-là que les USA aussi commencent à soutenir l'Irak en favorisant l'armement, le développement de l'armée.
C'est un petit peu curieux de voir effectivement ce genre d'entente-là quand on sait ce qui s'est passé par la suite entre l'Irak et les États-Unis, et puis surtout la haine qu'ils ont éprouvée envers Saddam Hussein par la suite, qui était le dictateur absolument à faire renverser, alors qu'il avait fait des choses énormes avant et qu'ils l'ont soutenu politiquement et financièrement et au niveau des armes pendant de très 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 longues années. Hein.
Je pense surtout aussi que les USA avaient voulu entretenir de bons rapports en sachant que l'Irak était un pays riche, puisque bon, il y avait aussi le pétrole, et d'avoir bien justement une possibilité d'un certain contrôle aussi sur le Moyen-Orient, que ce soit financier ou politique. Et donc parallèlement à ce conflit Iran-Irak, on voit également que du côté de la vie familiale de Saddam Hussein, les choses se renforcent également, puisqu'il ira même jusqu'à marier sa fille aînée au fils de son cousin, pour encore plus renforcer l'aspect familial du pouvoir. Et c'est également à ce moment-là que Saddam Hussein prendra une seconde épouse. Ça, c'était quelque chose dont moi, personnellement, j'étais pas du tout au courant, mais il a été marié deux fois avec une jeune institutrice. Et donc, le point de vue familial est vraiment très compliqué parce que toute la famille qu'il avait avec sa première femme semble reléguée au second plan et on voit qu'il éprouve une certaine forme de dégoût. Et c'est peut-être seulement dans ses rapports avec sa seconde épouse qu'on remarque certains traits plus ou moins humains de ce dictateur.
Vazan, leave us. I want to talk to Saddam. Your strength is in the family. Blood is permanent. I want Rakhat to marry Vazan's boy. I want you to keep the family together. My family.
Why are you talking like this?
Keep Bazan close. He was always loyal to you, even when he was little.
You should rest, Mom.
It is a good thing that you never knew your father. He was mad blood.
Donc on l'a compris, la cordiale entente avec les États-Unis ne va pas durer éternellement.
À partir du second épisode de la série, on va voir en 1988 Saddam Hussein qui commence à se lancer dans une guerre avec le Koweït, puisqu'il juge que le Koweït vend le pétrole beaucoup moins cher que l'Irak, et donc il y a un problème économique. Les USA ne réagissent pas, donc Saddam Hussein décide d'envahir le Koweït tout simplement pour détruire les puits de pétrole du Koweït. Et à ce moment-là, effectivement, par contre, l'opinion internationale avec la coalition des Nations Unies, à la tête des 34 nations, le président George Bush senior commence à dire à Saddam, bon voilà, maintenant tu enlèves tes troupes du Koweït, sinon on te retire déjà toutes les aides financières et d'armement, et qui plus est, on envahit ton pays aussi.
T'imagines le crime contre l'humanité, quoi. Il allait quand même brûler des puits de pétrole, c'est dramatique. Oui. À côté des gens qu'il a assassinés, voilà. Et ça c'est vraiment vraiment trop fort, quoi.
Puits de pétrole, massacre, etc. Et effectivement, l'aspect financier là, qui a joué un rôle déterminant dans la guerre avec les USA. Donc voilà, c'est le début de la première guerre du Golfe. Le bombardement de Bagdad jusqu'à l'arrivée de l'armée américaine carrément dans le pays. Et puis une guerre ben, qui finalement embourbe tout le monde, puisque les USA ont quand même une résistance, puisqu'ils ont réussi à armer aussi cet Irak, donc ils luttent contre leurs propres armes. Et néanmoins, Bagdad qui se fait mais complètement détruire, donc une ville qui était très riche, très prospère, qui n'est plus qu'un tas de cendres après la première guerre du Golfe. Une guerre lassante, et au bout d'un moment, mais les USA retirent leurs troupes, en pensant avoir déjà suffisamment appauvri le pays, et une fin de guerre que Saddam interprète comme une victoire, en fait, puisque pour lui, si les USA ont arrêté de faire la guerre, ça veut dire que ses troupes ont réussi à battre les USA, ce qu'il ne se rend pas compte, et c'est à ce moment-là, je pense, qu'il commence un petit peu à perdre pied par rapport à la réalité, c'est qu'il ne se rend pas compte que l'aspect économique, l'aspect de la population, tout son pays est à feu et à sang, et pour lui, c'est une grande joie, finalement, puisque juste les USA sont partis. Également, d'un point de vue de sa famille, bah, c'est un petit peu la guerre, tout simplement, hein, puisque la première épouse du dictateur, qui s'appelle Saïda, qui est la mère de ses enfants, bah, elle est totalement reléguée au second plan après l'arrivée de la deuxième épouse. Le fils aîné, Uday, qui a des penchants alcooliques et psychopathes, il viole des femmes, il tire dans les foules, etc. Enfin, vous voyez un petit peu le genre de personne. Le cadet Kousai, qui devient finalement son assistant, mais qui commence de plus en plus à voir que son père est en train de perdre les pédales, et ne sait rien faire. Donc, en plus d'un pays à feu et à sang, une famille également complètement ruinée, je dirais. En 1995, donc, l'Irak a survécu à la guerre du Golfe. L'ONU refuse de lever les sanctions imposées au pays si Saddam Hussein ne commence pas à coopérer et déjà aussi à reconnaître qu'il a des armes de destruction massive et surtout, s'il en a, qu'ils doivent les supprimer tout simplement au nom de la sécurité internationale. Fou d'orgueil parce qu'il considère comme une victoire pour lui, mais une victoire amère pour son peuple, Saddam Hussein décide de ne pas coopérer et déclare ne pas posséder d'armes, ce qui va entraîner à nouveau une détérioration de l'entente qui était déjà plus que très limite, je dirais, avec les États-Unis et même l'opinion internationale, pour aboutir à la fin des années 90 à nouveau à un pourrissement des relations avec l'Irak et au début des années 2000, à nouveau, une seconde guerre du Golfe qui va à ce moment-là certainement entraîner plus que les États-Unis, je pense, puisque il y aura également le soutien donc de l'Angleterre par rapport à ça, le soutien d'autres pays européens. De son côté, lui, Saddam Hussein, de plus en plus, c'est le fanatisme religieux qui va commencer à l'envahir complètement.
Il y a peut-être un petit point de vue un petit peu biaisé aussi, on l'a peut-être noirci un petit peu le tableau par rapport au personnage. Bon, j'essaye pas de le sauver hein, parce que clairement c'était pas quelqu'un de fréquentable, mais est-ce qu'on aurait pu le noircir vraiment à fond pour dire voilà, c'était le diable et finalement on a bien fait de lui faire la guerre parce que finalement il avait bien cherché.
C'est un procès d'intention, ce type de choses qui avait été fait notamment au film aussi La Chute, où on avait dit on a essayé d'humaniser un personnage comme Hitler, c'était pas bien, ça reste un dictateur, un génocidaire, etc. Je trouve que les gens qui font ce même procès d'intention à la maison Saddam se trompent un petit peu peut-être, parce que justement, comme tu le dis, ici on a quand même chargé le tableau, quoi. On voit le dictateur Saddam Hussein dans sa vie de tous les jours, dans sa vie familiale, mais néanmoins, même quand il organise des choses, je dirais entre guillemets positives, avec l'anniversaire de sa fille, etc., c'est toujours avec un but malfaisant derrière, puisque à l'anniversaire de sa fille, c'est à ce moment-là qu'il fait son putsch contre le premier président. Quand il fait des repas de famille, c'est juste pour discuter des dernières tactiques de guerre. Bon, on charge le portrait clairement. Et donc ici, justement, peut-être au contraire, je pense qu'on a décidé de ne pas du tout l'humaniser. On en fait quelqu'un d'avide de pouvoir qui devient complètement fou à la fin. Je sais pas, personnellement, je pense que le tableau est un petit peu chargé, même si ça ne remet pas en doute tout ce qu'il a pu faire et toutes les décisions atroces qu'il a pu prendre, ça c'est sûr. Mais effectivement, le point de vue est américain et anglais, ça c'est indéniable. On est toujours du côté, je dirais, géographiquement de l'Irak. On ne quitte jamais le personnage de Saddam Hussein. Si ça avait été une production irakienne, si tant est que des productions irakiennes existent, je pense que les choses auront certainement été un petit peu différentes.
Here he is, children. Your hero father. Your hero grandfather. Hiding behind his desk in his uniform.
Sajida, what do you want?
Tell them why. Tell them why you killed my brother. Tell them. Tell me.
Well, please show your mother to her rooms.
Adnan was your friend. He loved you and you needed him. Now look what you're left with. Men who are nothing but afraid of you.
Adnan was killed in a tragic accident. I'm sorry.
Accidents do not happen in Iraq anymore.
Sajida, go shopping.
Come on, Mama.
Let's go.
La chute de Saddam Hussein s'amorce donc notamment par son refus de voir que le pays est à feu et à sang, et surtout par une chute de plus en plus marquée dans un fanatisme religieux, comme je le disais, surtout aussi marquée par une certaine forme d'orgueil. On peut voir dans une scène notamment, il appelle son fils Uday à venir dans son bureau, il lui montre un arbre généalogique qu'il s'est amusé à reconstruire, qui réussirait à prouver que la famille de Hussein descendrait directement donc du prophète Mahomet. Et donc il se vante d'avoir du sang royal, du sang divin, que toute sa famille en bénéficie. Donc c'est déjà un fanatisme religieux, mais aussi, bon, il se prend pas pour rien, quoi. C'est à son avantage également. C'est également à cette période-là, et c'est ça qui commence vraiment, je pense, à mettre la puce à l'oreille de nombreux, même de ses partisans, comme quoi il aurait réellement pété une case, c'est que il commence à recopier le Coran avec son propre sang. On voit qu'il commence vraiment à ce moment-là à déconnecter des réalités, je pense.
Ah, ça c'est carrément étrange comme scène ce que tu nous décris, mais il y a une vraie source véridique là derrière là, ou alors c'est peut-être un truc que les Américains ont fantasmé, parce que ça fait quand même très dictateur de film d'horreur là.
Personnellement là j'ai pas la réponse par rapport à la généalogie de Mahomet. Ça effectivement il y a eu des choses qui ont été retrouvées, des calculs d'apothicaire comme quoi c'était le petit cousin de... Bon, à ce moment-là je pense que tout le monde est descendant de tout le monde. Concernant le Coran, ça personnellement j'en sais rien, mais c'était un détail assez marquant quand même dans la série, qui illustre de toute façon cet orgueil religieux qu'il met de plus en plus en avant,
et qui est d'autant plus étrange que c'était quand même quelqu'un qui avait installé un état laïque en Irak.
Il a installé normalement aussi ce qui était censé être le renouveau de l'Irak. Bon, au final c'était lui principalement qui était le privilégié, mais le peuple n'en a jamais réellement profité, hein, je pense, du développement irakien. Donc c'était aussi un peu une vue biaisée de ce côté-là. Alors en 2003, ben voilà, la seconde guerre du Golfe a lieu, les États-Unis donc envahissent à nouveau l'Irak, la guerre reprend, mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus marqué peut-être que dans la première guerre du Golfe. Tout est détruit, mais encore plus, je pense. Le peuple en a vraiment marre cette fois-ci. Le peuple commence à collaborer de plus en plus avec les Américains également. Il y a des tracts à un moment anti-Saddam Hussein qui commencent à être envoyés du ciel, mais pas par les Américains, par des sympathisants... je dirais irakiens, à l'invasion américaine. Et donc la famille... on pourrait presque l'appeler la famille royale d'Irak, puisqu'il vivait quand même comme un prince, est obligé de quitter le palais de Bagdad. Et donc la famille, donc la première épouse, les filles du dictateur sont envoyées en Jordanie, où finalement rien ne leur est fait, puisqu'elles bénéficient quand même aussi d'une protection de jordanienne, puisque bon, dans l'histoire, elles, ce ne sont que des... entre guillemets, que des femmes, et comme on voit un petit peu le statut qu'elles avaient, elles sont toujours mises de côté finalement, donc elles ne sont accusées de rien. Les fils de Saddam Hussein sont assassinés lors d'une attaque assez marquante, je pense, dans la série.
Ils n'étaient pas particulièrement aimés non plus, hein, de leur peuple, les fils Saddam Hussein, parce que je pense qu'ils étaient du style aussi à assassiner tous ceux qu'ils voulaient, et ils étaient toujours couverts par leur père, donc je pense que ça a aussi participé à la haine du peuple pour toute la famille Hussein au bout d'un moment.
Uday et Qusay, de toute façon, étaient détestés par le peuple. Qusay parce qu'il était considéré comme le larbin de son père, et Uday parce que c'était un psychotique qui violait, qui tuait tout le monde. Donc bon, à vrai dire, il avait très peu de sympathisants aussi de son côté, je pense. Ils sont assassinés lors d'une attaque de l'armée américaine dans une maison. Le petit-fils également, donc, de Saddam Hussein est également assassiné lors de cette scène. Saddam Hussein, lui, quitte le palais en se cachant dans la forêt, enfin une sorte de forêt broussailleuse comme ça, d'Irak. Et finalement, en 2006, il est repéré par des forces armées américaines. américaine dans une cache. Il est arrêté et donc directement mis en prison.
Il y a eu aussi toute cette histoire de sosie aussi de Saddam Hussein, hein, ce qui participe aussi au fait que cet homme était fou, c'est qu'il avait créé comme ça tous des gens qui lui ressemblaient. En tout cas, il s'entourait de gens qui lui ressemblaient pour pouvoir se fondre dans la masse.
L'histoire des sosies, ça par contre, il n'y a aucune référence qui est faite dans la série. Mais concernant donc cette zone de flou, c'est le dernier épisode. Donc le quatrième épisode se situe à partir du moment où Saddam Hussein doit quitter son palais jusqu'à son arrestation et exécution. C'est l'épisode, je pense, le moins intéressant, dans le sens où il ne se passe pas grand-chose, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé durant cette période-là. Et c'est donc vraiment, je dirais, du remplissage. On voit qu'il essaie de vivre, il essaie de faire passer des messages au peuple irakien en pensant qu'il est encore considéré comme le grand président de l'Irak, alors que les gens en ont vraiment assez et n'espèrent qu'une chose, c'est qu'il se fasse arrêter. Même ses partisans le prennent de plus en plus pour un vieux fou délirant, je dirais. C'est franchement pas l'épisode que j'ai trouvé le plus nécessaire. Je pense que sur cette période-là, ils auraient peut-être pu la raccourcir.
Et puis on manque aussi un petit peu de recul aussi, hein, par rapport à cette période de la vie de Saddam Hussein, puisque on vient de la vivre quelque part en direct au niveau des médias, donc la retraverser à travers une série qui n'a certainement pas d'éléments nouveaux ne doit pas être fondamentalement très intéressante.
Tout à fait, parce que je pense que c'est des images qui sont encore dans la tête de beaucoup de gens, le moment de l'arrestation, les photos de Saddam Hussein barbu, crasseux. Effectivement, c'est tellement proche qu'on n'apprend pas grand-chose de cette période-là non plus. On a lu ce genre de choses sur cette arrestation. C'était peut-être plus intéressant de se revenir 20 ans avant, des moments où plus personne ne se souvient de ce qui s'est réellement passé au départ. Alors, ma critique, c'est que c'est une série qui est déjà d'un très intéressante, puisque ça permet de revenir quand même sur une page d'histoire mondiale, tout simplement, avec un personnage fort, Saddam Hussein, qui est resté et qui restera, je pense, dans l'inconscient un peu collectif, dans cette histoire du Moyen-Orient. Le seul gros souci, je dirais, de la série, c'est que c'est un format court, donc 4 fois 1 heure. Pour se couvrir 25 ans d'histoire, c'est parfois un petit peu rapide. Il y a des coupes qui sont quand même vraiment sévères dans le récit. On passe parfois d'une dizaine d'années où on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça ne gêne pas. On comprend tout, ça ne pose pas de problème. Mais bon, c'est vrai que ça limite un petit peu peut-être le développement de certains rapports, justement les USA. Le gros souci aussi, je pense que vu que c'est une série anglo-saxonne, on peut difficilement faire tout à fait confiance à la reconstitution des événements. Je ne remets pas en la bonne foi des auteurs, mais malgré tout, la vision est un petit peu biaisée. Je dirais que le rôle du soutien des États-Unis, par exemple, est mis très vite de côté dans la série. Hein. On a une petite phrase comme quoi, oh oui, les États-Unis sont derrière moi, mais voilà, c'est tout. Bon, malgré tout, ils sont derrière lui financièrement, dans l'armement et tout ça. Je pense qu'on aurait peut-être plus développé cela pour être totalement objectif aussi. Néanmoins, les points positifs, donc c'est les acteurs. Là, c'est assez grandiose. Donc l'acteur qui joue le rôle de Saddam Hussein, acteur israélien Yigal Naor, il est assez sidérant de ressemblance déjà et surtout d'intensité également, puisque c'est déjà pas un rôle facile je pense à la base, mais dans les scènes dramatiques il est vraiment très très puissant. Il a une sorte de haine renfermée en lui qui se dégage, qui est vraiment une froideur dans ses gestes qui est assez implacable. Reconstitution des décors du Bagdad des années 80 après la destruction aussi, assez impressionnant, toutes les explosions, etc. On a vraiment l'impression de se retrouver au cœur même du conflit parfois. Et puis tout simplement aussi les qualités documentaires du bien qui sont à prendre en considération, puisque aussi par moment on a des inserts d'images réelles. Donc par exemple quand le président Bush intervient à la télévision, ce sont les vraies images du président au moment où il avait fait ses déclarations. On a parfois aussi des images du vrai Saddam Hussein aussi qui passent à la télévision lors des conflits irakiens. On voit réellement ce qui s'est produit. Et donc je pense que ça a un aspect aussi pédagogique et didactique qui est assez important à prendre en compte. Une très chouette série, intéressante, bien fichue, qui aurait peut-être mérité plus d'épisodes, ça je sais pas, mais à vraiment à voir.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.